Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-François Cadet, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Une économie gangrénée, pays par pays, région par région, par le Covid-19. La crise sanitaire affecte aussi les échanges mondiaux, les investissements internationaux, fait exploser les déficits et la dette et rend encore plus massif, plus urgent et peut-être aussi plus aléatoire l'aide multilatérale et les plans de reprise sur l'ensemble des continents. Après avoir évoqué les États-Unis et l'Europe, on va s'intéresser cette semaine aux pays émergents, en Asie, en Afrique, en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Quel impact le coronavirus aura-t-il et a-t-il déjà sur la conjoncture, sur les matières premières, les échanges mondiaux, les investissements? Faut-il craindre de graves troubles sociaux et pire encore, des crises alimentaires? Quelle aide à court et long terme les institutions financières internationales et les pays du Nord doivent-ils et peuvent-ils apporter à ceux du Sud? Un moratoire sur la dette des pays les plus pauvres est-il suffisant? Annuler purement et simplement cette dette est-il possible? Les cartes de la mondialisation sont-elles en train d'être battu. Pour en parler, trois invités sont avec nous, toujours bien sûr par téléphone en raison, comme vous le savez, du confinement. D'abord, Jean-Joseph Boileau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous étudiez particulièrement la Chine, l'Inde et l'Afrique. Également avec nous, Gilles Dufresneau, bonjour.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, professeur d'économie à la faculté d'économie et de gestion de l'université d'Aix-Marseille. Merci également d'être là et merci et bonjour à vous, Thierry Apotheker.
Bonjour.
Vous êtes le président et le fondateur de Tech Economics, qui est un groupe de recherche indépendant qui conseille les investisseurs, les entreprises et les organisations multilatérales. Dans cette émission, nous entendrons aussi Albert Zefak, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, un reportage de notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy, et un dossier de Stanislas Naïchimier sur le marché des hydrocarbures. Alors la prévision, comme le remarquait le regretté Pierre Dac, est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. La chef économiste du FMI, Gina Gopinath, l'a reconnue cette semaine. Elle s'y est tout de même essayée. Et les chiffres qu'elle avance font froid dans le dos, puisque le Fonds monétaire international nous annonce la plus grave récession depuis la Grande Dépression des années 30, au moins 3% du PIB mondial et une perte cumulée de 9 milliards de dollars entre 2020 et 2021. C'est absolument gigantesque, Gilles Dufresneau. Dans ce contexte, les pays émergents sont-ils plus ou sont-ils moins exposés que d'autres à la récession annoncée?
Alors, les pays émergents sont tout aussi fortement affectés. Je peux donner deux exemples. La première illustration, c'est le cas des pays d'Asie. Les pays d'Asie devraient connaître, d'après les prédictions, des taux de croissance, un taux de croissance à zéro, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies. Et on pourrait dire la même chose des pays d'Afrique, par exemple, ou des pays d'Amérique latine. Donc, ces projections du FMI sont planétaires, en quelque sorte.
Alors, pour paraphraser La Fontaine, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient donc frappés. Pour vous, Thierry Apotheker, quels sont les pays les plus à risque économiquement parlant?
Premier point, si vous me permettez, c'est que, pour compléter ce que dit Gilles, il y a des pays qui vont être plus affectés que les pays développés par cette pandémie mondiale, parce qu'ils vont combiner, en quelque sorte, les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire le confinement, la chute de production, la chute de demande, avec des effets d'échelle qui sont sans commune mesure avec ceux que nous avons d'habitude, mais ils vont aussi avoir les problèmes de financement international, qui sont des problèmes de pays en développement et pas des problèmes de pays riches. C'est-à-dire qu'on l'a vu, les sorties de capitaux ont été beaucoup plus fortes que par exemple pendant la crise de 2008. Ce sont des pays qui ont des dettes en devises. Donc ils vont avoir non seulement les mêmes problèmes que ceux qu'on a dans les pays développés pour contenir une pandémie dont on voit bien qu'elle est compliquée, et en même temps ils vont être affectés de façon massive par une espèce d'aversion financière au risque qui les précipite en quelque sorte dans des tensions financières fortes. Alors, une fois qu'on a fait cette remarque, qui va être plus ou moins touché? Je crois qu'il faut distinguer. Il y a la question de la pandémie elle-même, du contrôle sanitaire et donc de l'impact, comme on le voit, absolument massif. C'est les chiffres de la Chine aujourd'hui. C'est ce qu'on a déjà sur les pays développés. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans n'importe quel pays, 15 jours de confinement enlève à peu près un point de PIB. Donc, Ça veut dire qu'évidemment, dans des pays où on va avoir des stratégies progressives de montée en régime des confinements, lorsqu'il y aura des difficultés techniques et sanitaires à contrôler l'épidémie, on aura des chutes de production qui sont, encore une fois, sans commune mesure avec ce qu'on a d'habitude. Donc, première question, c'est quels sont les pays qui sont capables ou pas capables de gérer, de contrôler dans les périodes liminaires la pandémie. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est, un peu comme l'évoquait Gilles, ceux qui sont très insérés dans les échanges internationaux ou dans les flux financiers internationaux et qui vont avoir par ailleurs un choc, je dirais, non sanitaire, non domestique. Et là, évidemment, ceux qui sont les plus affectés sont à la fois ceux qui sont dépendants des matières premières. Vous avez très justement dit qu'on a un choc historique sur les prix des matières premières. Et ceux, par ailleurs, qui sont très insérés dans ces fameuses chaînes de valeur, c'est-à-dire qui dépendent à la fois d'intrants importés et de marchés d'exportation.
Alors, le virus, on le sait, hein, faut-il le rappeler, est parti de Chine. La Chine qui a annoncé ce jeudi, Jean-Joseph Boileau, une chute de 6,8% de son PIB, de son produit intérieur brut au premier trimestre. Alors ça, c'est vraiment du jamais vu depuis Mao. La situation est grave ou elle est gravissime, docteur Boileau ?
Alors, la Chine est dans une situation, comme vous le savez, statistique, qui pose évidemment problème. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur chez un de vos confrères, c'est qu'il y a un mois, j'avais proposé de mettre un zéro devant les chiffres de cas et de victimes, et que le chiffre de PIB qui vient d'être annoncé, je ne vois pas d'où il vient.
Ah, donc 6,8, ça veut rien dire.
Ah non, c'est pas sérieux. Bah, écoutez, j'ai un réseau de centaines de personnes en Chine avec lequel je suis en relation directe, étroite, et très sincèrement, la Chine est un pays dont la moitié, je crois, Thierry pourra me corriger, à peu près, c'est du PIB manufacturé, et là, évidemment, les usines ont quasiment toutes été arrêtées. Et c'est pas la fabrication de masques, de tests qui va compenser l'arrêt d'une filière aussi importante que la filière automobile. Et j'ai vu par ailleurs les chiffres de consommation d'électricité qui sont un élément très très important.
Mais donc évidemment, on sait à quel niveau alors selon vous ?
Ah, je veux pas m'avancer. Pour moi, on est aux alentours de moins 15. Allez, je m'avance. Et puis là encore, nos deux experts me diront si je suis complètement à côté de la plaque.
Ah oui, donc du simple au double.
Par contre. Ah oui, oui, oui. Ce que je, là, oui, je mets pas le facteur 10, là. Oui. Sinon, ça nous donnerait moins 65%. Mais pour les décès, oui, j'en suis à peu près persuadé, on a un facteur 10. Mais surtout, le chiffre le plus intéressant, c'est celui qui a été cité, incidemment dans le South China Morning Post, qui est, un bruit qui est sorti, mais qui est appuyé sur des données assez réelles. C'est, moins 25% aujourd'hui, de postes d'emploi. Or, là, ça coïncide avec ce que je reçois du terrain, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, depuis maintenant 40 ans d'ajustement structurel en Chine, on a une très grosse partie de la population qui n'est plus salariée, à statut, et qu'on avait un nombre croissant de petits commerçants, de paysans, et puis de plus en plus tous ces métiers ubérisés que l'on voit à chaque fois que on visite la Chine. Or, ces gens-là se sont vus tout à coup complètement coupés du business. On a vu des manifestations importantes de, par exemple, de commerçants qu'on avait, dont on avait fermé donc les magasins, les restaurants, etc. pendant plus d'un mois. Et donc, le chiffre de 25% aujourd'hui me paraît le plus intéressant parce que on rentre dans le schéma macroéconomique dont parlait tout à l'heure un de vos interlocuteurs, c'est-à-dire que ce qui va poser problème pour la Chine, c'est moins un problème d'offre qu'un problème de demande d'une certaine façon. L'offre, on est dans un régime dictatorial, donc c'est assez facile, entre guillemets, de procéder prudemment, mais à une reprise graduelle de la production, et c'est ce qui se passe, on le voit, y compris dans les entreprises françaises là-bas. Mais par contre, c'est la demande qui va poser problème.
Alors ça, c'est intéressant et c'est particulièrement inquiétant, effectivement. Gilles Dufresneau, est-ce que vous diriez que la Chine, atelier du monde, ben, ça risque, sinon, de se terminer rapidement, du moins d'être une position fragilisée sérieusement.
Alors, oui, c'est pour compléter un petit peu ce que vient de dire Jean-Joseph. Hein, il faut savoir que, alors, les chiffres, évidemment, sont à prendre avec précaution. Mais si on considère la production industrielle, en janvier-février, la production industrielle a déjà baissé de 13%. À moins 13%, donc effectivement, un taux de croissance, une récession limitée à 6%, ça paraît ils ont sous-estimé. Deuxième phénomène, deuxième élément important, comme vous l'avez souligné, la Chine, tout de même, je veux dire, compte tenu de son degré d'insertion dans le commerce international, ce qui se passe ailleurs, le fait qu'il y ait un ralentissement de la croissance aux États-Unis, en Europe, etc., ça peut poser des problèmes. Mais un élément qui est quand même très important, c'est que nous allons nous rendre compte du fait que si ça va mal en Chine, ça ira aussi mal pour beaucoup de pays. Et on le voit déjà sur les marchés des matières premières. Vous avez un certain nombre de matières premières qui ont dévissé, c'est-à-dire dont les prix diminuent. Et ça, c'est lié au ralentissement de la croissance chinoise. Maintenant, ce que personne ne peut prédire quand même, c'est finalement, la sortie de crise pour la Chine, est-ce qu'il y aura un rebond avec une croissance en V ? Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps ? Donc là, il y a une incertitude.
Alors justement, c'est la question que je voulais poser à Thierry Apothecaire précisément, parce que là, il ne s'agit plus des chiffres annoncés par Pékin, mais des chiffres annoncés par le FMI. Alors évidemment, on est dans la prévision. Le FMI qui table sur une croissance positive de 1,2% quand même sur l'année 2020, et même d'un rebond de 9,2% en 2021. Pour l'Inde, on est un petit peu dans les mêmes eaux, hein, puisque le FMI prévoit une hausse du produit intérieur brut de 1,9% en 2020 et un rebond de 7,4% l'année prochaine. Ça veut dire que la capacité de rebond en Asie serait plus forte qu'ailleurs ?
Alors là, vous me pardonnerez de faire un tout petit détour, un tout petit peu technique. Il faut faire très très attention quand on utilise les taux de croissance et qu'on a justement ces phénomènes d'enfoncement et puis ces phénomènes de rebond. Mmh. Je vous fais la démonstration en une seconde. Le transport aérien, disons, il a un chiffre d'affaires de 100 en décembre 2019. Et puis il chute de 70%, ça veut dire que son chiffre d'affaires est à 30. Et puis il remonte de 70%. Et son chiffre d'affaires arrive à 50. Ça veut dire qu'avec un profil où vous avez moins 70 plus 70, ben vous n'êtes pas du tout revenu au niveau de départ. Vous êtes revenu à la moitié du niveau de départ. Donc, très attentif à la mesure des taux de croissance. Pardon, là aussi, de mettre un petit peu d'éléments provocateurs. Moi, je suis pas du tout si dubitatif des chiffres chinois. Là encore, il faut faire attention. On parle là, c'est la façon dont les Chinois nous affichent les chiffres, c'est en glissement annuel, c'est-à-dire le niveau du PIB du premier trimestre 2020 par rapport au niveau du PIB du premier trimestre 2019. Les Américains, eux, utilisent une autre mesure qui est trimestre sur trimestre annualisé, et que si vous appliquez ça à la Chine, vous êtes à plus de 20% de baisse. Donc, plus de 20%, et vous l'avez dit vous-même, un profil qui est déjà en V, pas aujourd'hui, dès le mois de mars. C'est-à-dire que, au fond, dès la fin du premier trimestre, vous avez des indicateurs qui remontent. Alors, est-ce que les éléments de demande sont si négatifs ? Moi, je suis pas sûr. On voit, par exemple, l'immobilier, on est à un niveau qui est aujourd'hui à peu près équivalent au niveau qu'on avait l'année dernière à la même époque, si on a recentré ça sur les dates du Nouvel An chinois. Sur, on utilise tous hein, les indicateurs TomTom de congestion de trafic, on est aujourd'hui remonté à 92% de ce qu'on observait avant le déclenchement de la pandémie.
Donc il y a des capacités de rebond.
Donc il y a des capacités de rebond et statistiquement ce rebond apparaîtra très fort. Et donc les chiffres du FMI, moi je vais vous dire très honnêtement, les nôtres avec des modèles très différents sont assez proches. Assez proches, on est un peu moins pessimiste sur la Chine, un peu plus pessimiste sur les autres pays émergents, Amérique latine, Asie et Afrique. Mais au global, avec un choc qui n'aura pas d'équivalent dans l'histoire, on peut dire du siècle sur l'ensemble des pays émergents. Mais encore une fois, plus le choc est fort au départ, plus les chiffres de rebond seront forts, sans que cela nous dise qu'on a rejoint les niveaux d'activité précédents. Parce que là, il faudra, dans tous les pays, la Chine comme les autres, attendre au moins 2022 pour qu'on rejoigne les niveaux d'activité et, comme le disait Jean-Joseph, donc les niveaux d'emploi que nous avions avant la crise. Mais il n'empêche qu'on aura quand même des taux de croissance très positifs, certainement en glissement annuel dès la fin de cette année et encore plus en 2021. Évidemment, quand vous prendrez le premier trimestre 2021, à supposer qu'il soit normal, et que vous le comparez à un premier trimestre 2020 qui est une espèce de trou d'air unique dans l'histoire, vous aurez un taux de croissance qui sera spectaculaire.
Alors, l'autre géant à la fois économique et démographique asiatique, si on accepte évidemment la Russie, c'est l'Inde. On va aller en Inde, justement, où la crise sociale est déjà bien installée, hein, même si pour l'instant, le pays a réussi à limiter la propagation du virus, avec 14 000 contagions pour environ 500 décès. L'Inde, c'est le plus grand confinement du monde, hein. Il touche plus d'1,3 milliard de personnes. L'économie est la troisième plus importante d'Asie. Elle est donc à l'arrêt, là aussi. Et les travailleurs précaires, qui représentent l'écrasante majorité de la population, sont dans une situation particulièrement délicate, comme a pu le constater le correspondant de RFI à New Delhi, Sébastien Farsi.
Plusieurs centaines de personnes font la queue le long d'une avenue du quartier modeste de Shiv Vihar, dans le nord-est de New Delhi. Le gouvernement régional a transformé toutes les écoles publiques en cantines gratuites où les plus pauvres viennent recevoir des plats de riz et de lentilles. Goudibai, une femme maigre, un chiffon rouge sur la bouche, attend son tour, le regard sombre.
Je travaillais sur un chantier de construction, mais il a fermé il y a 3 semaines. Il n'y avait plus de transport, donc j'ai essayé de rentrer à pied vers mon village d'origine, à 500 km de là, mais ils m'ont arrêté en chemin. Aujourd'hui, je trouve à peine de quoi manger. Combien de temps ils vont nous faire souffrir ainsi?
Cette femme fait partie des millions de travailleurs journaliers indiens qui redoutent aujourd'hui bien plus le confinement que le coronavirus. Car la plupart sont payés au jour le jour et sans travail, ils n'ont plus d'argent pour se nourrir, voire se loger. Et maintenant, comme tous les déplacements sont interdits, ils ne peuvent même pas rentrer dans leur village pour recevoir de l'aide de leur famille. Le 26 mars, le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 20 milliards d'euros pour les plus pauvres, mais cela est trop faible, selon Ritika Khera, économiste du développement à l'Institut de Management d'Amenabad.
Ces aides correspondent à seulement 0,5% du PIB indien. Même les États-Unis sont plus généreux que cela. Ce n'est pas assez, car selon la Banque mondiale, 76% des salariés indiens sont vulnérables. Donc, soit le gouvernement n'en a rien à faire d'eux, soit il ne les voit tout simplement pas. Le confinement peut être une bonne stratégie pour les pays européens qui ont un système de protection sociale. Mais en Inde, le coût social est énorme.
Selon cette spécialiste, la priorité doit être d'éviter des famines localisées. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il doublait les rations offertes aux 2/3 de la population qui reçoivent une aide alimentaire. Mais pour Ritika Khera, il faut aller plus loin, plus vite.
Une grande partie de la population va bientôt ne plus avoir de réserve de nourriture. Or, les silos du gouvernement fédéral sont pleins. Ils possèdent 3,5 fois le stock de sécurité. Ils ne savent déjà plus comment stocker ces céréales et une nouvelle récolte va arriver. Donc, ils devraient donner ces réserves aux régions qui décideront ensuite si elles veulent organiser des soupes populaires ou distribuer les céréales à toute la population.
Le Bureau international du travail a estimé que 400 millions d'Indiens pourraient tomber sous le seuil de pauvreté à cause de l'arrêt de l'économie, soit près d'un tiers de la population du pays.
Reportage en Inde de Sébastien Farsi. Jean-Joseph Boileau, vous connaissez extrêmement bien l'Inde. Est-ce que le coronavirus pourrait être non seulement un révélateur, mais aussi un accélérateur des énormes inégalités sociales de cette économie?
Oui, ou plus exactement, comme partout dans le monde, la crise du coronavirus reflète ce qui était déjà sous-jacent. Les chaînes de valeur, ça fait déjà des années dont on en parle, centrale sur la Chine, etc. Dans le cas de l'Inde, il y a deux chiffres qui, moi, me paraissent extrêmement révélateurs des scénarios possibles. C'est qu'on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 150 millions de familles, donc ce ne sont pas des individus, ce sont des familles, donc en moyenne 4,5, c'est-à-dire quasiment 600 millions d'Indiens qui sont directement impactés par, non pas la crise, mais la façon dont elle a été gérée, c'est-à-dire comme la démonétisation de 2016, une décision de New Delhi, de l'empereur Modi, qui décide que le confinement est général à l'instant T0, plus un bus, plus un train, etc., et donc des dizaines, des centaines de milliers de gens qui veulent retourner dans les campagnes car ils savent que c'est là qu'ils vont avoir à manger. Donc ça, c'est le premier chiffre, 150 millions, donc à peu près la moitié en fait de la population. Et on estime que le taux de pauvreté au sens de la poverty line, là, c'est-à-dire le 1,25 par jour, qui était descendu à 30% à peu près de la population indienne, est remonté un mois après, donc un mois de confinement, à 50% de la population. Le schéma indien est tout à fait différent du schéma chinois. On a là en fait une crise économique, je dirais un peu à l'ancienne, qui ressemble beaucoup à 1929 aux États-Unis. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous avez des sortes de licenciements. Alors là, on ne licencie pas parce que les gens étaient embauchés sans véritable contrat de travail. Il ne faut pas l'oublier, 95-96% de la population indienne et dans le secteur informel. Et donc, on a tout d'un coup un phénomène d'effondrement des revenus, de la demande. Et le problème de l'Inde, c'est que son gouvernement central est très pauvre sur le plan fiscal. Il a une masse fiscale extrêmement réduite. Et donc, il est déjà dans un endettement important. Et je ne vois pas comment il peut relancer la machine sans prendre des mesures aussi fortes que celles qui ont été prises aux États-Unis. Or, en sous-jacent, il y a une crise politique.
Et le risque aussi, corollaire de tout cela, Thierry Apothécaire, c'est le risque de contestation sociale ?
Ah ben, je crois que oui, comme le dit très bien Jean-Joseph, on est dans une situation là qui est un chaudron explosif dans lequel on parle de centaines de millions de personnes qui étaient dans des situations, je dirais, de sortie d'extrême pauvreté, qui s'y retrouvent replongées avec une logique politique qui était déjà contestée, bien sûr, avant, enfin, qui créait beaucoup de tensions internes à l'Inde bien avant la pandémie. Et donc, vous avez là quelque chose où la question de la rechute dans la pauvreté de personnes qui viennent d'en sortir dans un contexte politique tendu et avec un risque de choc social de première grandeur, ça fait effectivement un cocktail qui n'est pas très, très favorable.
Jusqu'à la crise alimentaire ?
C'est de savoir comment le gouvernement va essayer de transférer, si je puis dire, l'attention ailleurs. Et on voit bien que partout dans le monde, c'est vrai bien sûr des Chinois qui en ont une grande habitude, mais également des Indiens, on va chercher le bouc émissaire.
Est-ce que vous croyez dans le risque d'une crise alimentaire, Gilles Dufresneau, pour un grand pays comme l'Inde, où effectivement les inégalités sociales sont particulièrement criantes, mais peut-être même au-delà du sous-continent indien ?
Oui, alors, si vous permettez, donc tout à fait de ce que vous dites dans le cas de l'Inde. Mais ce que je dirais, c'est que ça va bien au-delà de l'Inde. Vous savez, aujourd'hui, vous avez à peu près dans le monde 113 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire et qui dépendent habituellement de l'aide extérieure sur le plan alimentaire. Or, aujourd'hui, en fait, quand on regarde un petit peu les pronostics de la FAO, ce qui apparaît, c'est que vous avez beaucoup de zones dans le monde qui ressemble fortement à ce qui se passe en Inde. Hein.
Vous avez, la FAO, excusez-moi de vous couper, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation.
Et l'alimentation. Alors vous avez toute la corne de l'Afrique qui a déjà subi un choc parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des invasions acridiennes qui étaient déjà un problème pour l'agriculture, donc qui est concernée. Vous avez toutes les zones d'insécurité, les zones de guerre, vous avez le Sahel. Bon, bref, un certain nombre de personnes qui en dépendent. Et pour vous donner une autre illustration, pour faire un peu le parallèle avec l'Inde, c'est que vous avez plusieurs millions d'enfants, par exemple en Amérique latine et Caraïbes, qui souffrent, qui sont déjà dans une situation de famine, parce que les familles ne peuvent plus bénéficier de l'aide de la FAO. Donc, en fait, je dirais que nous voyons ce qui se passe en Inde, c'est une illustration grandeur nature d'un phénomène, en fait, qui est général. Bon, la différence peut-être, c'est que je dirais que c'est l'effet de taille, vous voyez, compte tenu du niveau de la population. Bon, peut-être que c'est un petit peu plus, ça nous frappe davantage en Inde, mais c'est la même chose un petit peu partout. Alors ça, c'est un point. L'autre point important, c'est que ce qui vient aggraver ceci, c'est que les mesures de confinement, l'arrêt du transport aérien, etc., ça peut provoquer des ruptures dans les chaînes alimentaires, dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Donc ça, je crois que c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte aujourd'hui et qui inquiète aussi les pénuries, par exemple, qui soient observées, parce que en fait, on a des obstacles au commerce, en fait, de la nourriture.
Jean-Joseph Boileau.
Oui, je voulais dire, sur la crise alimentaire, non, je ne suis pas du tout, entre guillemets, inquiet pour l'Inde. Il faut bien faire attention, on n'a pas du tout la même situation en Afrique et en Inde. Les stocks alimentaires en Inde sont considérables. Et donc, le problème de l'Inde, c'est moins le problème, je dirais, d'une crise alimentaire en tant que telle, que la crise de la pauvreté qui va se traduire, comme c'est le cas en ce moment, par des soupes populaires, par des organisations, par des distributions de rations. Vous savez que toutes les villes indiennes sont extrêmement bien organisées pour distribuer de la nourriture. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est comment la crise est utilisée par Narendra Modi pour un agenda idéologique qui va mettre, je dirais, créer une sorte, non pas de famine, mais de situation de dépendance de centaines de millions de pauvres. Or, les pauvres, on le sait, hélas, et l'Allemagne nazie avait beaucoup joué là-dessus, sont plutôt, évidemment, très malléables et très sensibles. Donc, le bouc émissaire musulman va, évidemment, ressortir, probablement, en tout cas, de la crise indienne, avec un programme qui n'est pas de tout celui du New Deal. Le parti de Narendra Modi est totalement incapable de mettre en place un programme de relance massive de l'activité. Par contre, c'est en Afrique qu'on a vraiment un triple problème. On a celui des zones d'ores et déjà en situation très difficile. L'accord de l'Est avec les criquettes qui sont en train de détruire des millions d'hectares de récoltes et qui se traduit par des millions donc de problèmes de soudure. Le cas des pays en guerre ou en crise civile comme le Yémen. Donc là, on a déjà des dizaines de millions d'Africains qui ont un vrai problème là de crise alimentaire et l'offre dans le pays n'est pas suffisante, alors que c'est le cas en Inde. Il y a une offre suffisante en Inde. Et enfin, troisièmement, la crise qui est en train aujourd'hui de se répandre un peu partout en Afrique et notamment au Nigeria, qui détruit ou qui plus exactement bloque les approvisionnements par des campagnes, enfin des villes par les campagnes. Or, les villes sont à ce moment-là dépendantes de l'aide alimentaire mondiale. Et là, je vois un vrai, vrai problème qui est celui de ce continent d'un milliard, 200 millions d'habitants et la question alimentaire.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI avec les économistes Jean-Joseph Boileau, Gilles Dufresneau et Thierry Apothécaire. Alors, après l'Asie, prenons justement la direction de l'Afrique. On l'évoquait à l'instant avec nos invités. Le Fonds monétaire international table sur une contraction du PIB de 1,6% en 2020 pour l'Afrique subsaharienne. Aucun pays du continent ne sera épargné, a prévenu son directeur Afrique, Abebe Ahemro-Selassie. Écoutons son homologue de la Banque mondiale, le chef économiste Albert Zefak.
Nous projectons que la croissance en Afrique subsaharienne baissera de 2,4% en 2019 à une fourchette de moins 2 à moins 5% en 2020, ce qui est effectivement la première fois que l'Afrique subsaharienne sera en récession depuis 25 ans. L'impact de COVID-19 se fera sentir non seulement sur la croissance, mais aussi sur le bien-être social, c'est-à-dire sur la consommation et les revenus des ménages et des individus en Afrique. Et nous projectons que cette baisse du bien-être social pourrait aller de 7 à 15% en fonction de la réaction des pays à cette crise. Un autre rapport projette qu'on pourra avoir une baisse de la production agricole de près de 2,6% en 2020. Et il faut se dire que cette crise frappe à un moment où on approche la période des récoltes en Afrique de l'Est ou la période où il faut planter autour de l'Équateur, dont il y aura un impact sur la production agricole. Doublé de cette baisse de la production agricole, il y a une baisse des importations des produits alimentaires. Et comme vous le savez, l'Afrique importe pour près de 35 milliards de dollars d'aliments par an. Et avec les barrières commerciales et la baisse du commerce international qu'a provoqué le COVID-19, nous observons des difficultés de certains pays déjà en Afrique à s'approvisionner en denrées de base. Donc, il y a une possible crise alimentaire qui viendrait s'ajouter à cette crise économique et à cette crise sanitaire.
Voilà, Albert Zefak, le chef économiste pour l'Afrique de la Banque mondiale, qui partage donc visiblement les inquiétudes exprimées il y a quelques instants sur RFI par Jean-Joseph Boileau. Gilles Dufresneau, est-ce à dire que dans ce contexte, que les États, les institutions multilatérales doivent à tout prix aider l'Afrique en mettant d'abord l'accent sur l'aide alimentaire et sur l'aide à la production agricole ?
Oui, ils le font déjà. Vous savez, ils le font de plusieurs façons. Vous savez sans doute que le FMI, par exemple, a décidé de mettre un moratoire sur le remboursement du service de la dette pour quelques temps. Donc, bien entendu, les organisations internationales sont en train de prendre des mesures importantes. Et évidemment, il faut le faire. Alors, il faut d'autant plus le faire, de mon point de vue, que, si vous voulez, vous avez une succession de crises, si vous voulez, qui se mettent les unes derrière les autres. Bon, on vient d'évoquer le phénomène des invasions acridiennes, mais vous avez d'autres pays. Donc, il y a la crise sanitaire, et cette crise sanitaire, pour un certain nombre de grands pays d'Afrique, je pense à l'Angola et le Nigeria, s'ajoute, en fait, à un autre choc qui est récent, qui était la baisse du prix du baril de pétrole, qui est en train d'engendrer des situations catastrophiques pour les finances de ces pays, et donc, si vous voulez, avec des ressources qui sont moins importantes pour pouvoir faire face à cette crise du Covid-19. Donc, en raison de tout ça, bien entendu, l'aide de la communauté internationale est importante.
Alors, on reviendra sur le dossier pétrolier dans un instant avec Stanislas Daïchimier, mais puisque vous me tendez la perche, Gilles Dufresneau, je voudrais évoquer à présent cette question de la dette, hein, ce moratoire, effectivement, qui a été décidé cette semaine par les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20, donc suspension immédiate et pour un an du service de la dette des pays les plus pauvres, ce qui va permettre à ces États de soutenir leur système sanitaire et de parer au plus pressé en libérant ainsi quelques 20 milliards de liquidités. Alors ce n'est pas rien, c'est une décision historique, dit-on à Berlin, à Paris aussi, mais suspension, ça veut bien dire qu'il va falloir payer un jour, Jean-Joseph Boileau. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une annulation pure et simple de la dette des pays les plus pauvres?
Ah, je vais vous choquer, mais bon, je ne suis pas pour l'annulation.
C'est déresponsabiliser les États?
Non, c'est de ne pas viser ce qu'il faut en réalité arriver à faire pour utiliser cette crise comme une véritable opportunité de remettre l'Afrique sur ses rails. Je suis très très proche de ce que disent des gens comme Kako Nubukpo, etc. Oui, vous avez raison, 20 milliards de liquidités sur un an, c'est ridicule. Par contre, pourquoi? On vient de vous dire, et notamment je note que les chiffres de la Banque mondiale sont nettement plus pessimistes et à mon avis proches de la réalité que ceux du FMI. Je rappelle que le FMI dit que le PIB de l'Afrique serait en gros en baisse de 1% et rebondirait de plus 4,1% en 21. D'accord? Bon, la Banque mondiale n'est pas du tout sur ce scénario et à juste titre d'ailleurs. Donc 20 milliards sur un an, c'est quoi? C'est libérer non pas 20 milliards, mais le service de la dette. C'est-à-dire libérer quelque chose comme peut-être 200 ou 300 millions de dollars pour gérer la crise sanitaire d'1,3 milliard d'habitants. Attendez, vous croyez que c'est sérieux? Bon. Pourquoi, par contre, je ne suis pas pour le système classique, c'est je m'endette, puis on annule et on redémarre. Eh bien, parce que c'est précisément dans ce mécanisme-là que repose l'installation de l'Afrique sur de mauvais rails, c'est-à-dire un continent, et ça a été dit tout à l'heure, c'est très juste, totalement dépendant de ses exportations de matières premières, qui aujourd'hui, donc, en gros, se dégonfle de 50% en prix. Hein. J'ai vérifié avant notre entretien les différents cours sur les différentes matières premières. Donc, il va y avoir une baisse de 50% de ses recettes en valeur, auquel se rajoute à peu près une estimation de 20% de volume. Ça vous fait du 70%. Vous voyez le choc considérable qu'il va y avoir. Donc, ce qu'il faudrait, me semble-t-il, faire, et il y a tout un ensemble d'économistes africains qui travaillent sur ce scénario, qui me paraît très intelligent, c'est bien sûr l'annuler, mais en réalité la reverser dans un fonds qui s'inscrit dans le cadre du fameux programme du NEPAD Afrique Horizon 2064 et qui vise enfin à réindustrialiser l'Afrique et à lui permettre viser, si vous voulez, un développement soutenable. Le problème des Européens, pour vous donner un autre exemple un peu choquant, ils se félicitent de ce moratoire, mais la seule application des fameux partenariats stratégiques, vous avez savait que donc normalement rentrait en vigueur cette année la baisse des droits de douane vis-à-vis de l'Europe pour ceux qui avaient accepté. Va se traduire, comme le dit Monsieur Berthelot, Yves Berthelot, qui a fait le calcul précis, par un manque à gagner d'environ 3 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est pas on n'est pas bien parti avec l'Afrique. Raisonner en termes de dette. Simplement le moratoire ne réglera pas le problème du continent, qui peut utiliser au contraire cette crise comme une véritable opportunité de bien redévelopper ses relations avec la Chine, qui est un vrai sujet. La Chine, vous savez qu'elle ne participe pas au moratoire en particulier, hein, et que c'est le premier créancier du pays. Elle dit « je vais le faire cas par cas ». Sous-entendu, je vais gérer politiquement aujourd'hui la solution. Si le Sénégal me critique parce que je traite mal les Sénégalais en Chine, eh bien, je vais appliquer le coup de massue. Donc, c'est un très beau sujet, la dette, c'est un sujet délicat, et en tout cas, ce qui est sur la table aujourd'hui ne me paraît pas, pour les économistes africains, en tout cas, ne paraît pas satisfaisant.
En plus, il y a non seulement la dette des États, mais aussi la dette publique, mais aussi la dette vis-à-vis des créanciers privés, Thierry Apothécaire, et notamment vis-à-vis des fonds d'investissement, et ça, c'est quand même une autre paire de manches, non ?
Ah, ce sera évidemment plus difficile, hein. Et puis pour aller tout à fait dans le sens de Jean-Joseph, il faut mesurer que ce moratoire, cette annulation, ça dégage des ressources budgétaires extraordinairement faibles par rapport à l'enjeu épidémiologique auquel font face des pays qui n'ont ni les infrastructures, ni les ressources, ni les capacités de transport. Et donc, oui, je crois que là, de ce point de vue-là, on a cette insuffisance criante. Et puis, bien sûr, plusieurs pays ont profité, en quelque sorte, de cette euphorie financière des dernières années, où les investisseurs internationaux cherchaient du rendement, qu'on trouvait plus dans les actifs dits sans risque, et donc ont été très contents d'acheter des titres souverains émis par la Zambie, par le Ghana. Et que, bien sûr, ces titres, ils ont un problème majeur, c'est qu'il faut les rembourser en une fois. Ce sont pas comme des crédits bancaires que vous pouvez amortir sur 10 ans. C'est-à-dire, vous émettez un eurobond à 5 ans, au bout de 5 ans, vous devez sortir 1 milliard. Donc, là, on est en présence non seulement d'un groupe d'investisseurs très dispersés, hein, des fonds de pension, des SICAV, et en plus avec des montants qui, lorsqu'ils tombent et lorsque vous ne pouvez pas les refinancer, c'est-à-dire lorsque l'aversion au risque est ce qu'elle est aujourd'hui, vous avez un vrai problème. Et donc, non seulement ce qui est décidé par les pays du ne suffira pas, est presque, on peut dire, une goutte d'eau dans la mare, dans l'océan des besoins, mais en plus on va avoir un conflit plus difficile à gérer, plus compliqué à négocier, plus long dans le temps. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des tensions financières durables, sans doute des défauts. Encore une fois, l'économiste ne voit pas le défaut comme une calamité, hein, c'est parfois la meilleure solution. Mais par contre, ça rend le retour à la normale plus compliqué dans les périodes d'après. Et moi, je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Joseph pour dire que la question de l'Afrique aujourd'hui n'est pas celle-là. Elle est de savoir comment, face à un choc, on peut changer pas seulement de modèle industriel, mais également de modèle politique, de modèle de gouvernance, de renforcement, d'éléments. On va pas ici faire la liste des difficultés, les questions de taux de change, les questions de réserve. Donc, oui, aujourd'hui, l'Afrique, je dirais malheureusement, hein, apparaît comme à la fois très sensible, mais et dépendante, finalement, d'une espèce de fausse générosité des créanciers.
Éco d'ici, éco d'ailleurs sur RFI avec les économistes Jean-Joseph Boileau, Gilles Dufresneau et Thierry Apothécaire. Alors vous évoquiez, messieurs, il y a quelques instants, le dossier des matières premières, le dossier des produits pétroliers aussi, le marché des hydrocarbures qui est en crise depuis déjà pas mal de temps, avant même le début de la pandémie. Et c'est vrai que le confinement et subséquemment l'arrêt et le ralentissement de l'activité ont fait dégringoler encore plus la consommation et l'offre excédentaire a, elle, été amplifiée par la guerre des prix que se livrent la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors certes, la semaine dernière, les pays de l'OPEP sont tombés d'accord pour réduire la production, mais l'efficacité de cet accord au forceps reste très incertaine, comme nous l'explique Stanislas Daïchimi.
C'est un accord qualifié d'historique. Il prévoit une baisse de la production de pétrole brut début mai à un niveau jamais atteint, 9 700 000 barils par jour, soit près de 10% du niveau de fin 2019. Au sein du groupe des 5 pays aux économies émergentes, les BRICS, les impacts de l'effondrement des cours du pétrole sont différents, Selon Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat et directeur de recherche de l'IRIS à Paris.
Quand vous êtes un pays exportateur net comme la Russie et le Brésil, ce qui se passe actuellement est très délicat. Une forte chute des recettes d'exportation, donc un impact important sur le budget de ces pays. Par contre, pour l'Inde et la Chine, qui sont des pays importateurs nets de pétrole, évidemment, là, c'est très favorable.
Quant à l'Afrique du Sud, qui ne produit pas encore de pétrole, un prix bas de l'or noir lui permet un allègement de sa facture d'importation pétrolière. Selon Jean-Pierre Favennec, spécialiste du pétrole et des moteurs, si la demande reste longtemps à un très faible niveau, ce sera catastrophique pour les pays exportateurs, même si...
Si ça ne dure pas trop longtemps, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, surtout le Koweït, ont des ressources, des réserves de financières extrêmement abondantes. Il y a 4-5 ans, l'Arabie Saoudite avait refusé de diminuer sa production et donc ça s'était traduit par une forte baisse des prix, c'était en 2015-2016, et son budget était déficitaire de 100 milliards de dollars. Mais on disait, c'est pas très grave, puisqu'ils ont un fonds souverain de 700 milliards, donc ils peuvent tenir.
Mais d'autres producteurs importants, membres de l'OPEP, ne peuvent pas se permettre d'agir comme l'Arabie Saoudite.
C'est beaucoup plus critique. Prenez le Venezuela, c'est évident, c'est une catastrophe totale. L'Algérie va être en mauvaise situation. Je ne parle pas de la Libye qui est un cas à part pour le moment. Des pays comme le Nigeria et l'Angola vont évidemment beaucoup souffrir.
Une situation très compliquée pour les grands producteurs du continent africain, mais pas seulement les grands. Philippe Sébille-Lopez, spécialiste de la géopolitique du pétrole et du gaz.
Les petits, donc Guinée équatoriale, Gabon, Congo-Brazza, pour eux c'est catastrophique aussi. C'est-à-dire que paradoxalement, même si la baisse en termes de revenus est plus importante pour les gros producteurs parce qu'ils exportent plus, donc ils vont perdre plus d'argent, pour les petits, ils exportent certes moins, et donc ils vont pas perdre plus d'argent, mais ils vont perdre beaucoup par rapport à leurs recettes budgétaire attendu.
Bientôt exportateur de pétrole brut, un pays comme le Sénégal pourrait reporter le démarrage de sa production et attendre la remontée des cours. L'imminente réduction de la production décidée par les membres de l'OPEP et les 10 pays partenaires ne pourra pas entraîner une remontée des prix du pétrole si la demande reste faible.
Stanislas Naïchimier dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, un problème qui était donc largement entamé avant même cette crise du coronavirus. Certains analystes, Thierry Apothécaire, laissent aujourd'hui entendre que pour des raisons politiques, les États-Unis pourraient bloquer une aide du FMI à l'Iran et au Venezuela. C'est possible, c'est un vrai risque ça pour les deux pays concernés?
Alors pour le Venezuela, oui, je crois que c'est le Venezuela est déjà dans une crise cataclysmique. Ce qui se passe aujourd'hui sur le pétrole l'entraîne dans une situation qui est là effectivement on peut dire d'explosion ou d'implosion du pays avec ses composantes économiques, sociales et de pauvreté. Juste pour rebondir sur l'évolution des cours, je crois qu'effectivement la question vraiment centrale pour des pays très vulnérables, type ce qu'on a évoqué en Afrique, Angola, Nigeria, le Venezuela bien sûr, la Colombie d'une certaine façon, pour ces pays-là la question centrale c'est que si la baisse des cours dure un mois, deux mois, bah finalement, oui, c'est un choc qui n'est pas du tout négligeable, qui n'est pas du tout insignifiant, mais qui est gérable. Si par contre la remontée de la demande est lente, si on a une remontée très progressive, et que face à cette remontée très progressive de la demande, les gros producteurs, dont les motivations stratégiques sont quand même pas très simples, remontent leur offre, bah là on a évidemment... un problème qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus durable.
Alors, on évoquait le Venezuela à l'instant. Je voudrais qu'on dise un petit mot de l'Amérique latine, parce que c'est évidemment un continent important, notamment de l'Argentine. Hein. Le président Fernandez a dit jeudi que le pays était dans une situation de défaut virtuel. Le gouvernement a demandé un moratoire de 3 ans. Il va proposer aux créanciers privés une restructuration de la dette publique. Gilles Dufresneau, le pays est déjà extrêmement affaibli. Est-ce que la señorita de Buenos Aires doit s'inquiéter pour son pouvoir d'achat et ses économies?
Oui, d'autant plus que la crise que vit l'Argentine, c'est en fait une crise structurelle. Hein. C'est que le contexte actuel ne vient que ajouter quelque chose qui était déjà en cours. Donc, d'autant plus également que le pays ne peut pas nécessairement compter sur la solidarité avec certains de ses voisins puissants comme le Brésil, voilà, qui est une politique un peu différente. Donc oui, il y a des raisons de s'inquiéter, effectivement.
Et le Brésil, justement, le Covid a fait beaucoup de morts là-bas. Hein. C'est l'un des pays les plus gravement touchés. C'est aussi un moteur de l'économie mondiale. Le problème est plus économique ou politique aujourd'hui en ce qui concerne le Brésil, pour vous, Gilles Dufresneau?
Ben, en fait, il est les deux, mais si vous voulez, la situation du Brésil illustre un dilemme devant lequel se trouvent la plupart des pays. Vous savez, vous avez le choix finalement entre adopter des mesures de confinement qui permettent de contenir un peu la propagation de l'épidémie pour éviter des morts. Et puis, en même temps, vous savez que si vous confinez, vous risquez d'affamer un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est un dilemme que rencontrent tous les pays en développement. Ça, c'est une chose. Maintenant, ceci peut être instrumentalisé sur le plan politique, et c'est sans doute, que ce soit le cas effectivement au Brésil, compte tenu de l'opposition très forte qu'on observe entre les gouverneurs d'un certain nombre de régions et puis l'administration brésilienne.
Est-ce qu'au final, Jean-Joseph Boileau, c'est pas la Chine qui, malgré tout, risque de ramasser la mise alors que c'est de son territoire qu'est parti le Covid?
Rafler la mise, non. Il est clair, là encore, que ce qui était, je pense, sous-jacent depuis quelques années, c'est-à-dire un ralentissement structurel, c'est-à-dire un trop industrialisé pour un monde qui était de moins en moins de bandeurs et qui avait déjà commencé, on l'oublie, depuis 2009, la relocalisation, plus la révolution technologique avec les imprimantes 3D. On les voit, cette crise va aller précipiter sur le devant des outils manufacturés de demain. Donc la Chine ne va pas sortir, je pense, renforcée. Elle va avoir un mal à s'ajuster, y compris sur le plan macroéconomique. Et il faut le savoir, la dette totale de la Chine, c'est à peu près 300% du PIB maintenant. On ne les voit pas en mesure de faire un immense plan de relance. Et donc, j'aime beaucoup les effets rebonds expliqués tout à l'heure par Thierry. Il a tout à fait raison. On a beau dire que le PIB, par exemple, remonterait à 9% l'an prochain. En réalité, on ne rattrapera pas avant 2023-2024. Et le PIB structurellement de la Chine va aux alentours maintenant, à mon sens, de 3% par an au mieux.
Gilles Dufresneau,
oui. Ce qui est vrai, vous avez raison, c'est que la Chine va probablement être le pays qui va sortir le moins abîmé, le moins meurtri par cette crise. Voilà. Donc je ne crois pas à la thèse de la superpuissance triomphante qui sort de la crise, renforcée sur le plan économique, etc. Mais je ne pense pas non plus à la thèse d'un effondrement de la Chine. Donc voilà, elle va s'installer dans son vieillissement organisé.
Mais bâtir une nouvelle relation entre la Chine, qui reste l'un des ateliers majeurs du monde, et l'ensemble de ceux qui commercent avec elle, est-ce que c'est pas ça aussi, Gilles Dufresneau, une nouvelle perspective qui pourrait s'ouvrir une fois que la crise touchera à sa fin?
Alors écoutez, moi je crois que l'un des enjeux importants pour la Chine avec cette crise est un enjeu d'abord géopolitique. Parce que ça intervient dans un contexte de course à l'hégémonie, vis-à-vis des États-Unis, et qu'on voit bien comment est-ce que la crise peut parfois être entre guillemets, instrumentalisé géopolitiquement. Je prends un exemple, l'aide qui est apportée à l'Afrique, c'est quelque chose qui est très médiatisé. Il ne faut pas oublier que derrière, compte tenu de la présence importante de la Chine en Afrique, tout ceci n'est pas dénué de préoccupations géopolitiques et aussi économiques, parce que les routes de la soie passent aussi par l'Afrique et qu'on a besoin de montrer que finalement la Chine est un interlocuteur sur lequel les pays pourront compter, puisque en période de crise elle était là pour les aider. Je pense vraiment que si la Chine sort renforcée, ce sera d'abord sur le plan géopolitique, parce qu'elle entend, vous ne pouvez pas compter comme une puissance économique si si vous n'avez pas la géopolitique qui va avec. Voilà. Donc, à mon avis, l'enjeu se situe là.
Voilà, l'économie, la politique et la géopolitique toujours extrêmement imbriquées hein, dans la mondialisation. Merci beaucoup à tous les trois, Thierry Apotheker, Jean-Joseph Boileau et Gilles Dufresneau. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de débattre et de participer à cette émission que vous pouvez réécouter, hein, je le rappelle, et podcaster sur RFI.fr et sur les applications mobiles RFI et Pure Radio. Dans un instant, l'info sur RFI. Prenez soin de vous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.